en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Chers collègues, chers amis, je suis très honorée aujourd'hui et très heureuse de parler de ce grand sujet, système monétaire international, États-Unis, France et zone euro, un 1er avril. Bien sûr, le sujet est extrêmement vaste, donc je vais prendre une approche qui doit être partielle, mais j'espère que je pourrai éclairer un certain nombre de problématiques qui sont très actuelles, en particulier dans le contexte de la zone euro. Donc le plan que je vous propose de suivre aujourd'hui est le suivant. Je voudrais commencer par faire un retour assez bref sur la naissance de l'euro et en particulier sur la façon dont on anticipait le rôle de l'euro comme monnaie, comme importante monnaie internationale en 1998 et 1999. Je discuterai le rôle des monnaies internationales de façon un peu plus générale et contrasterai à ce moment-là le rôle important du dollar dans le système monétaire international et ce que nous savons pour l'instant du rôle de la monnaie européenne. Je voudrais aussi en profiter pour signaler que lors des 20 premières années de l'euro, donc on peut parler de naissance et d'adolescence, nous avons appris un certain nombre de choses sur le fonctionnement du système monétaire international, ou peut-être nous les avons réappris, je ne sais pas, mais nous avons en particulier fait un certain nombre de travaux de recherche qui montrent l'importance très grande des monnaies dominantes dans les domaines de facturation et de paiement, en particulier dans les domaines des cycles financiers et pour ce qui est des aspects géopolitiques. Donc je parlerai de ces travaux de recherche quelque peu récents qui montrent un éclairage assez important, à mon avis, sur le rôle du dollar dans le système monétaire international en particulier. Puis je discuterai le rôle de l'hégémon du système monétaire international pour ce qui est de la provision de liquidités globales et relierai ce rôle à la résilience du secteur financier. Et je conclurai donc en discutant de la réforme de la gouvernance de la zone euro en relation avec cette problématique de résilience du secteur financier et de rôle de provision de liquidités globales, ce rôle de monnaie de réserve que le dollar joue dans le système monétaire international. Voilà le menu pour ces 40 minutes. Donc, si nous nous reportons un petit peu avant la naissance de l'euro, il y a un certain nombre d'étapes importantes. Bien sûr, je ne peux pas parler de toutes. Je citerai néanmoins le rapport Marjolin de 1962, qui est un peu comme un point de départ officiel de l'intégration monétaire en Europe, dans un monde monétaire où, bien sûr, les taux de change sont fixes, puisqu'on est encore sous Bretton Woods, mais où les notions de coopération de politique monétaire deviennent plus importantes. Et c'est une notion que le rapport Werner de 1970 développera beaucoup et dressera vraiment, jettera les bases de l'union économique et monétaire. Puis, en 1979, nous avons la création du système monétaire européen. Et je soulignerai particulièrement ici le rôle d'Alexandre Lamfalussy dans le rôle de la création de l'euro, bien sûr, puisque qui a eu un rôle absolument fondamental et qui a été aussi le président fondateur de l'Institut monétaire européen qui préfigure la Banque centrale européenne. Le 1er janvier 1999, nous avons vu le passage à l'euro pour les 15 États qui ont réussi un processus de convergence macroéconomique. Et à l'époque, donc un certain nombre de problèmes logistiques qui ont été bien résolus. Mais là, pour vous remémorer cet épisode, nous avons un petit calculateur pour convertir les fonds français en euros. C'était 6,559,57. C'était quelque chose d'un peu compliqué. La même chose pour les autres monnaies européennes, que ce soit la lire, la peseta, l'escudo. Mais tous les problèmes de logistique ont été résolus et l'euro est bien né en 1999 et puis s'est étendu par la suite. particulier à la Grèce. Donc bien sûr, la naissance de l'euro, c'était un processus politique qui l'a porté, mais il y avait aussi des impératifs économiques très forts qui ont supporté la naissance de l'euro. Et là, je vais citer Jean-Claude Trichet, qui a rappelé, en rendant hommage à Tommaso Padoa-Schioppa, qui était un des autres grands architectes de la zone euro, le fait qu'avant la création de la monnaie unique, nous avions effectivement un quartet, ce que Tommaso appelait un quartet inconsistant, entre du libre-échange en termes de commerce, mobilité du capital, aussi taux de change fixe et autonomie des politiques monétaires. Bon, ces quatre propriétés ne peuvent coexister ensemble, elles sont incompatibles, en particulier si on a une mobilité du capital et des taux de change fixes, on ne peut pas avoir une autonomie des politiques monétaires. Les arbitrageurs se chargent de ramener toute politique monétaire qui dévierait de la banque centrale, en l'occurrence de la Bundesbank. Les arbitrageurs se chargeraient de la remettre en ligne. Donc c'est impossible d'avoir ces quatre propriétés en même temps. Et la monnaie unique était bien le moyen de résoudre cette quadrature du cercle par l'adoption d'une politique monétaire commune. En quelque sorte, à marché unique, monnaie unique. Donc rôle certainement politique de l'euro, mais aussi justification économique très forte. L'euro a été un succès du point de vue des opinions publiques dans la zone, puisque ici je vous montre les derniers résultats du baromètre, de l'eurobaromètre, qui demande aux citoyens de la zone euro si l'euro est une bonne ou une mauvaise chose pour l'Union européenne. Et comme vous pouvez le voir, on voit ici que à peu près trois quarts des gens pensent que l'euro est une bonne chose, et c'est quelque chose qui a augmenté dans la période récente, après avoir descendu un petit peu. Mais donc on voit ici une majorité très forte en faveur de l'euro. Alors à l'époque, en 99, lorsque l'euro est né, il y avait de grandes attentes, en particulier, je dirais, du côté français, sur le rôle anticipé de l'euro dans le système monétaire international. Donc on pouvait penser que la zone euro, étant donné sa taille économique, étant donné le nombre d'habitants de la zone euro, étant donné son poids dans le monde, que le rôle de l'euro pourrait être peut-être pas égal à celui du dollar dans le système monétaire international, mais que le rôle de l'euro allait s'amplifier, et que l'euro serait au moins une importante monnaie internationale à l'image du dollar, peut-être pas tout de suite, mais dans les 10, peut-être 20 ans après sa création. Il y avait une certaine attente vis-à-vis de l'internationalisation de l'euro. Et la discussion autour de ce rôle international s'articulait sur des concepts qui sont très utiles, à mon avis. Ce sont les trois rôles de la monnaie de façon générale, qui sont les rôles de moyen de paiement, de réserve de valeur et d'unité de compte. Donc ça, chaque monnaie a trois fonctions fondamentales, qui sont ces trois fonctions-là, moyen de paiement, réserve de valeur, unité de compte, soit au niveau national ou au niveau international. Et qu'est-ce qu'on entend par ces fonctions-là? Donc moyen de paiement, c'est le fait que on paye les gens, on fait des transactions, effectivement, en utilisant une certaine monnaie. Donc on voit bien que la liquidité va avoir un rôle à jouer pour ce rôle de la monnaie. Plus une monnaie sera liquide, mieux elle sera pour être un moyen de paiement. C'est vrai de particulier à particulier, c'est vrai aussi sur les marchés d'échange, où s'il y a beaucoup de gens qui veulent échanger du dollar, eh bien ça va rendre le dollar très très liquide. Évidemment, quand on veut faire des transactions et quand on veut utiliser une monnaie, une des qualités que l'on recherche, c'est aussi que cette monnaie soit une bonne réserve de valeur. Cela veut dire qu'elle ne se déprécie pas trop vite, qu'elle ne perde pas sa valeur très vite. Donc on ne veut pas d'une monnaie qui ait de l'inflation. On veut aussi compter dans cette monnaie. C'est le rôle d'unité de compte, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc toutes ces fonctions interagissent l'une avec l'autre pour se renforcer. Dans la mesure où l'on utilise une monnaie pour l'une de ses fonctions, il sera beaucoup plus facile de l'utiliser aussi pour réaliser les autres fonctions. Ça, c'est vrai du côté des ménages, des entreprises, mais c'est aussi vrai du côté du secteur public. Si une grande partie des ménages dans une économie utilise le dollar, eh bien, il sera utile pour la Banque centrale d'avoir du dollar dans ses réserves, peut-être pour stabiliser le cours de la monnaie nationale vis-à-vis du dollar, par exemple. À ce moment-là, on aura besoin de dollars dans les réserves de change. Il pourrait être utile pour certains pays aussi d'ancrer leur monnaie au dollar. À ce moment-là, si on ancre sa monnaie au dollar, eh bien, on augmente la stabilité des termes de l'échange avec le reste du monde. Importer du pétrole, par exemple, qui est en dollars, sera plus prévisible si on a une monnaie qui est elle-même ancrée au dollar. Donc il y a un certain nombre d'interactions et je dirais de synergies entre ces différents types d'utilisation des monnaies qui font que lorsqu'une monnaie est bien installée au cœur d'un système monétaire international, comme l'est le dollar, eh bien il est assez difficile de l'en déloger. Il y a un phénomène d'inertie, puisqu'on a assez peu d'incitation à dévier de l'utilisation d'une monnaie si tout le monde l'utilise pour faire tout ça. Donc la problématique de l'euro en 99, c'est est-ce que la zone euro sera suffisamment grosse, suffisamment importante d'une certaine façon, pour déloger quelque peu le dollar de ses fonctions. Et on sait que c'est très difficile parce que historiquement, l'inertie des monnaies dominantes a été étudiée, en particulier là je cite Charles Kindleberger qui raconte comment au 19e siècle c'était la livre sterling qui était la monnaie la plus utilisée dans le monde, c'était la monnaie qui était au centre du système monétaire international, c'était le gold standard. Et la sterling monnaie internationale, cela voulait dire un certain nombre de choses très importantes. Cela voulait dire que il y avait un libre-échange entre l'Angleterre et le Commonwealth et le reste du monde qui faisait qu'effectivement il y avait un marché d'importation de dernier recours en quelque sorte avec l'Angleterre, que le flux de capital qui venait de la City était contracyclique, les gens voulant toujours accepter de la sterling, il est très facile pour la Grande-Bretagne de se refinancer. Cela voulait dire aussi qu'il y avait des coordinations de politique macroéconomique qui, là, s'effectuaient dans le cadre du gold standard, et aussi que la Banque d'Angleterre était prêteur de dernier ressort du système monétaire international. Cet équilibre, avec la sterling au centre du système monétaire international, a duré même bien après, d'une certaine façon, bien après la prééminence de la Grande-Bretagne dans les échanges internationaux et en tant qu'économie dominante. Puisque les États-Unis ont cru très vite, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et en termes de masse économique, ils étaient plus importants que la Grande-Bretagne assez rapidement. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'inertie avec l'utilisation de la sterling, jusque, avec des hauts et des bas, mais grosso modo jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on sait très bien que le système monétaire international est assez inertiel et... cela nous invitait quelque peu à la réserve pour le rôle que l'euro pouvait jouer en remplaçant le dollar au centre de ce système. Donc si je fais un retour en 1998, et là je cite deux économistes très naïfs à l'époque, qui écrivaient que l'internationalisation de l'euro dépendra donc de façon critique de la vitesse d'intégration des marchés financiers en euros, probablement, mais donc nous y reviendrons. Il n'est pas évident que cette vitesse d'intégration des marchés financiers en euros ait été très rapide, de la volonté de la Banque centrale européenne de ne pas empêcher l'internationalisation et du nombre de participants dans l'Union monétaire, surtout de la participation du Royaume-Uni. Donc, comme vous le voyez, c'était encore un temps où l'on pensait que le Royaume-Uni allait participer, vraisemblablement, dans la zone euro. Bon, nous savons que le 29 mars, le Royaume-Uni n'est toujours pas sorti de l'Union européenne, mais nous n'en savons pas plus. Alors, pourquoi est-ce que nous avons ces discussions sur le rôle de l'euro dans le système monétaire international, le rôle du dollar, et pourquoi est-ce que Finalement, qu'est-ce que nous avons appris des 20 premières années de l'euro sur le fonctionnement du système monétaire international? Eh bien, donc, dans les bénéfices d'une monnaie internationale, on en cite toujours un, mais qui, à mon avis, est relativement minime. C'est celui du fameux le seigneuriage international. Qu'est-ce que c'est ça? Simplement l'habilité, la possibilité que le pays qui est l'hégémon, donc qui est au centre du système monétaire international, puisse imprimer de la monnaie et que les gens veuillent bien utiliser cette monnaie. Donc imprimer de la monnaie, comme vous le savez, cela ne coûte rien, quasiment rien. Et donc dans la mesure où les gens veulent bien accepter votre monnaie, eh bien ce sont des revenus dont vous pouvez disposer. Ça, c'est le seigneuriage. Donc les chiffres du seigneuriage international, même pour le dollar, sont relativement faibles. On parle de quelques dizaines de pourcentages de points de pourcentage de PIB par donc quelques dixièmes de pourcentage de PIB par an. Donc c'est pas totalement négligeable, mais c'est pas très très gros non plus. En revanche, donc d'autres avantages qui sont liés au fait qu'une monnaie est internationale et donc utilisée par beaucoup d'acteurs qui peuvent l'utiliser comme point d'ancrage, par exemple, c'est la stabilisation des termes de l'échange. Dans le cas des États-Unis, le fait que les marchés du pétrole et des matières premières sont en dollars font que les termes de l'échange des États-Unis sont plus prévisibles que pour les autres économies. Il y a moins de risques de ce point de vue-là. Le pouvoir géopolitique conféré par une monnaie internationale peut être aussi important. Et pour les Français, nous avons une tradition qui est de parler du privilège exorbitant du dollar. Et alors là, je suis très reconnaissante à Georges-Henri Soutou, car lorsque j'ai écrit un de mes premiers papiers pour estimer le privilège exorbitant du dollar, donc j'ai attribué cette formule à De Gaulle. Et je cherchais vainement dans les discours de De Gaulle où elle avait été prononcée et je n'arrivais pas à le trouver. Et en fait, la raison pour laquelle je n'arrivais pas à le trouver, et c'est grâce à Georges-Henri Soutou que la lumière s'est faite, c'est parce que c'est Valéry Giscard d'Estaing, en fait, qui a parlé de privilèges exorbitants alors qu'il était ministre des Finances. Et c'était reporté par Raymond Aron dans un article du Figaro de 1965. Donc il a dit ça dans une conférence de presse. Ceci dit, Valéry Giscard d'Estaing, en parlant de privilèges exorbitants, reportait bien l'esprit de ce que le général de Gaulle voulait dire. Et là, j'ai une citation de la conférence de presse du 4 février 1965 du général de Gaulle, où il explique que le fait que et je trouve ça, c'est une citation très intéressante, parce qu'il explique bien que le fait que de nombreux États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour compenser le cas échéant les déficits que présente à leur profit la balance américaine des paiements amène les États-Unis à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. En effet, ce qu'ils lui doivent, ils le lui paient, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, au lieu de les leur payer totalement avec de l'or, dont la valeur est réelle, qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. Cette facilité unilatérale qui est attribuée à l'Amérique contribue à faire s'estomper l'idée que le dollar est un signe impartial et international des échanges, alors qu'il est un moyen de crédit approprié à un État. Et en particulier, cette dernière phrase est très intéressante. Et bien que cette citation réfère à Bretton Woods, encore, le système de Bretton Woods, dans lequel nous étions jusqu'en 1973, par bien des aspects, on peut au moins avoir une application plus moderne de cette idée que le fait d'avoir une monnaie internationale fait que cela donne un avantage du point de vue du moyen de crédit pour un État. Et je reviendrai sur ça. Mais qu'est donc advenu de notre euro qui est né en 1999? Donc c'est là que je vous propose de regarder les dernières données sur l'internationalisation de l'euro que la BCE, la Banque Centrale Européenne, publie régulièrement des données sur ce qui se passe du côté international pour le rôle de l'euro. Et là, vous voyez que donc, le dollar, c'est toutes les barres bleues. L'euro, ce sont les barres oranges. Et nous avons la monnaie chinoise, le RMB, qui est en rouge. Et le yen japonais, qui est en vert. Alors, de gauche à droite, nous avons la part du dollar et de l'euro, etc., dans la dette internationale. Vous voyez que le dollar est à peu près à 62% et l'euro à 23%. Nous avons la part de dollar dans les prêts internationaux, donc pareil, une domination assez nette. Dans les transactions sur le marché d'échange, pareil. Alors, en monnaie globale de paiement, de façon intéressante, l'euro semble avoir une importance quasi égale à celle du dollar. Donc ça, c'est un développement assez récent et c'est intéressant. Donc ça montre qu'en matière de monnaie d'échange, en particulier dans les données SWIFT, il semblerait bien que l'euro prenne de l'importance. Par contre, dans les données de réserve d'échange, là, le dollar est bien toujours la première devise. Ce qui est confirmé par ce graphe simple des réserves d'échange des banques centrales, où le dollar, c'est la partie bleue, et vous voyez qu'elle croît toujours, et l'euro, c'est la partie orange, et on voit bien ici la différence d'importance dans les réserves d'échange des banques centrales sur la planète, avec une partie qui est grise, on ne sait pas quelles sont les monnaies, c'est secret, mais on devine qu'il y a pas mal de dollars aussi dans la partie grise. Si l'on regarde maintenant la carte géographique des monnaies, au sens où on divise le monde dans des zones dollars ou des zones euros, voire zones sterling, c'est-à-dire des pays qui sont soit des monnaies qui sont ancrées au dollar ou qui limitent les fluctuations de leur monnaie vis-à-vis du dollar, qui essayent de stabiliser la valeur de leur monnaie vis-à-vis du dollar. Donc c'est toute la zone qui est rouge. Donc on voit que la zone dollar encore est très forte. Et la zone euro, donc, qui est en bleu, n'est pas négligeable. Et en particulier, on a les anciens pays du franc CFA qui se retrouvent là, dans la zone de domination de l'euro. Donc en termes de données, on se rend compte que l'euro, finalement, c'est la deuxième monnaie du système monétaire international, sans problème. Mais en même temps, on ne dirait pas qu'il a vraiment augmenté, on pourrait dire, ses parts de marché dans les marchés financiers internationaux, énormément par rapport au dollar. Alors, qu'avons-nous appris sur le rôle des monnaies internationales que nous ne savions pas forcément en 98-99 et qui rendent ce constat peut-être même un peu plus important que ce que nous pourrions penser? Alors, il y a tout un tas de travaux récents en économie qui portent sur le rôle de la monnaie dominante en tant que monnaie de facturation des échanges commerciaux. Dans quelle monnaie est-ce qu'on paye des importations, des exportations? Donc, est-ce que c'est important ou pas? Et il s'avère que c'est assez important. Je vous dirai pourquoi dans une minute. Mais c'est quelque chose sur lequel nous avons appris un peu plus, je crois, dans les 20 dernières années. De même, nous avons appris un peu plus sur le cycle financier global, qui montre que les retombées internationales de la politique monétaire de l'hégémon, donc en l'occurrence là, c'est de la réserve fédérale américaine, sont peut-être plus importantes que ce que nous pensions. Et puis, nous avons bien sûr récemment appris plus sur les systèmes de paiement, l'importance de systèmes de paiement en monnaie, en particulier en dollars, et les liens avec le pouvoir géopolitique. Donc, si je reviens sur cette idée de monnaie de facturation, ici, je vous montre la part des importations en bleu et des exportations en rouge qui sont facturées en dollars pour un certain nombre de pays. Et vous pouvez voir que il y a évidemment beaucoup de pays d'Amérique latine qui utilisent vraiment le dollar dans leur facturation. Et les pays européens sont plutôt vers la droite, donc ils l'utilisent un peu moins. Mais c'est assez hétérogène selon les pays et il y en a quand même une part non négligeable. Donc l'échelle va de 0 à 2. Si vous étiez à 2, ça voudrait dire que vous êtes complètement dollarisé en termes d'importation et d'exportation. Vous facturez tout en dollars. Et si vous êtes à zéro, ça veut dire que vous ne facturez rien en dollars, ni les importations, ni les exportations. Si on regarde l'équivalent pour la zone euro, pour l'euro, on se rend compte que les barres sont en moyenne plus basses, donc il y a moins de facturation en euros. Mais il y a aussi pas mal d'hétérogénéité. Et là, les pays européens sont bien sûr ceux qui utilisent le plus l'euro. Et à l'inverse, les pays d'Amérique latine, peut-être le moins. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que selon la monnaie de facturation que l'on utilise, comme les prix tendent à être assez rigides, vous avez pu expérimenter, je suis sûre que les prix ne changent pas de façon constante, donc ils sont, ils restent rigides pendant une certaine période. Eh bien, les effets des mouvements des taux de change ont plus ou moins d'impact sur les prix nationaux selon le degré de facturation en monnaie étrangère. Et alors, ici, vous avez un graphe assez frappant que j'ai pris d'un discours de Benoît Cœuré de la Banque Centrale Européenne, où vous pouvez voir que lorsque les pays ont des factures énormément en euros, donc ici, ils sont sur la droite de ce graphe, donc la ligne horizontale vers la droite, ce sont les pays qui ont beaucoup de facturation en euros. Eh bien, pour ces pays-là, les fluctuations du taux de change, qui sont sur l'axe vertical, ne changent pas énormément les prix nationaux. Donc, il y a peu d'impact des fluctuations externes. Donc, ils sont assez isolés, finalement, des fluctuations du taux de change. Alors que pour les autres pays qui ont peu de facturation en euros, comme Chypre, comme l'Irlande, comme la Grèce, comme la Hollande, eh bien, c'est le contraire. Ces pays vont être très peu protégés des fluctuations du taux de change et ces fluctuations vont se retrouver dans les prix nationaux. Par conséquent, pour la BCE, il y a beaucoup d'hétérogénéité ici. La BCE est responsable des prix dans la zone euro et vous voyez que les chocs externes, les fluctuations du taux de change vont avoir des effets assez différents sur les différents pays de la zone euro. Donc, ces histoires de facturation, de quelle monnaie utiliser, ne sont pas neutres pour la conduite de la politique monétaire. Ce sont même des facteurs qui sont assez importants. Pouvoir géopolitique, je ne vais pas m'étendre sur cela, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais je crois que nous avons vu récemment en particulier que l'application de la loi américaine se fait dans la juridiction dollar plutôt que dans les frontières américaines, et cela a un certain nombre de conséquences qui sont parfois assez importantes. Je vais maintenant passer à cette idée de cycle financier global, si vous le voulez bien. Et donc, encore une fois, ici, c'est pour signaler le fait que le fait d'avoir une monnaie hégémonique peut être importante pour les économies de tous les pays, de façon peut-être plus appuyée ou plus quantitativement importante que ce que nous pensions auparavant. Donc, qu'est-ce que c'est que le cycle financier global ? Le cycle financier global, c'est les fluctuations de l'activité financière, par exemple, prise de risque, création de crédit, prix des actions, des obligations, flux de capitaux, endettement des intermédiaires financiers, sur une échelle globale. Et ce cycle financier global devient au cours du temps, avec l'intégration financière, ce qu'on appelle la globalisation financière et les flux de capitaux entre pays devenant très gros, ce cycle financier global devient de plus en plus important pour les conditions financières nationales. Donc ici, ce que je vous montre, c'est un graphe du FMI qui montre la corrélation, c'est-à-dire le degré de co-mouvement entre des conditions financières globales et des cycles financiers nationaux. Et lorsque les lignes montent, là, comme on le voit sur la période récente, cela veut dire que les cycles financiers nationaux sont de plus en plus corrélés avec les conditions financières globales. Donc cela veut dire que le cycle financier global est de plus en plus important au cours du temps, au moins dans les 10 dernières années, c'est ce qui semble bien se passer. On peut donc se demander quels sont les facteurs qui déterminent le cycle financier global. Le cycle financier global. Qu'est-ce qui, finalement, détermine cette prise de risque qui est corrélée à travers les pays, qui corrèle aussi les flux de capitaux, qui corrèle l'endettement, qui corrèle la création de crédit. Qu'est-ce qui est derrière ces mouvements communs entre pays? Et donc, il y a certainement un certain nombre de facteurs, mais un des facteurs, c'est le rôle de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire le rôle de la politique monétaire américaine qui a un effet sur un certain nombre de ces variables du cycle financier global. Donc ici, je vous montre trois graphes qui sont Le premier, c'est le taux de change, c'est le dollar, c'est le taux de change du dollar. Et ces graphes montrent ce qui se passe lorsque la Réserve fédérale américaine augmente son taux d'intérêt de 1%. Donc de 100 points de base, 1%. Et donc la Réserve fédérale américaine typiquement fait ça lorsque l'économie anticipait que l'inflation peut augmenter aux États-Unis et donc il peut y avoir une surchauffe. À ce moment-là, la Réserve fédérale américaine va augmenter son taux d'intérêt pour éviter d'avoir de l'inflation aux États-Unis. Que se passe-t-il sur les variables internationales ? Donc, bien que le mandat de la Réserve fédérale américaine soit purement un mandat américain et donc qu'elle ne regarde que les faits sur la politique, que les faits sur l'économie américaine, elle va avoir des retombées qui sont importantes sur les autres pays. Et voilà les retombées. Donc, à gauche, nous avons le dollar qui apprécie. Donc, lorsque la politique monétaire américaine... Donc, le taux d'intérêt américain augmente de 1%. Le dollar s'apprécie de façon non négligeable. 5% ici, donc, sur l'appréciation du dollar. Donc, c'est non négligeable. Les prix des actifs financiers baissent. C'est le deuxième graphe, aussi de façon non négligeable. Et la prise de risque... tend à diminuer, ou l'aversion au risque tend à augmenter sur les marchés financiers lorsque la Fed augmente son taux d'intérêt. Donc la Fed, bien qu'américaine, a un impact sur le cycle financier global. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Et de façon plus peut-être parlante pour la zone euro, lorsque la Fed augmente son taux de 1%, on voit ici le DAX, qui est le marché des actions allemand, qui baisse de 10%. Et on voit une appréciation du dollar par rapport à l'euro. Et on voit également des mesures de coûts de financement allemand qui augmentent. Et la BCE, qui de façon endogène et dynamique, baisse son taux d'intérêt, en raison vraisemblablement du resserrement des conditions financières que la Réserve fédérale américaine crée en augmentant son taux directeur de 1%. Donc on le voit bien, il y a ici des liens assez étroits entre ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est parce que c'est l'hégémon, les États-Unis, c'est parce que c'est vraiment important, la Réserve fédérale américaine, et les retombées sur les économies, même la zone euro, sur les économies en dehors des États-Unis. Et donc il y a vraiment des retombées internationales qui ne sont pas négligeables du tout de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Qu'en est-il de la BCE ? Bien oui, la BCE aussi, c'est une banque centrale qui est importante. Donc la BCE, lorsqu'elle va aussi bouger son taux d'intérêt, elle va avoir des effets sur les autres pays. Ces effets seront un peu moins globaux, a priori, que les effets de la Réserve fédérale américaine, mais certainement les pays de l'Europe centrale et de l'Est sont affectés par la politique monétaire de la BCE. Et parfois aussi, on peut déceler des effets encore un petit peu moins régionaux et un petit peu plus globaux. Toutefois, il semblerait que les retombées de la politique monétaire de la BCE soient moins importantes quantitativement que les moins globales que les effets de la Réserve fédérale. Ce qui n'est pas tout à fait illogique quand on a regardé les mesures d'internationalisation entre l'euro et le dollar. Alors, est-ce que ça a une conséquence, tout ça ? Eh bien, moi, je dirais oui, ça a une conséquence, puisque ce que ça montre, c'est que à la fois à cause de l'utilisation des monnaies internationales comme monnaie de facturation et aussi à cause du cycle financier global, voire les effets du système de paiement et des juridictions de la juridiction dollar, d'une certaine façon, cela veut dire que la souveraineté monétaire est contrainte. Même les pays qui ont un taux de change flexible sont soumis au cycle financier global. On l'a bien vu dans les graphes que je viens de montrer. Et là, donc, je vais citer Mario Draghi dans son discours de Bologne qu'il vient de faire, qui ne parlait pas, lui, de la politique monétaire percée. Il ne parlait pas de ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que ça s'appliquait assez bien à ce que nous venons de voir ensemble. Il dit « La véritable souveraineté est reflétée non dans le pouvoir de faire des lois, comme une définition légale le suggérerait, mais dans la capacité de contrôler sa destinée et de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. » Dans le domaine de la politique monétaire, on voit bien donc l'importance à ce moment-là de l'euro et de l'Union européenne par opposition à des petits pays pour pouvoir avoir un peu plus de souveraineté monétaire par rapport à la politique monétaire américaine dans le système monétaire international. De façon plus générale, et je crois que c'était plutôt le sens du propos de Mario Draghi, lorsque certains citoyens ou partis politiques au sein de l'Union européenne voient l'apparence de leur pays à des institutions supranationales comme une menace à l'exercice de leur souveraineté nationale, eh bien c'est un peu le contraire de la réalité, puisque c'est faire vraiment une confusion entre les notions d'indépendance et de souveraineté. La vraie souveraineté, c'est la capacité à contrôler les destinées. On pourrait avoir l'illusion de l'indépendance et édicter ses propres lois sans avoir aucune prise sur les événements, on perd alors sa souveraineté. Et là, je donnerai vraiment l'exemple du Take Back Control britannique, qui a été le slogan phare de la campagne du Brexit, Take Back Control. C'est vraiment le slogan qui a le plus marqué les gens, je pense, outre-Manche. Et malheureusement, je crois que les Britanniques sont en train de réaliser que le fait de vouloir faire des négociations de commerce international avec l'Inde, de pouvoir avoir l'idée qu'on peut les faire sans passer par l'institution européenne, ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir négocier vraiment des accords de commerce avantageux avec l'Inde, puisque ils ont perdu leur capacité, ils auront perdu leur bargaining power, ils auront perdu la force de l'Europe qui leur permettait de négocier des bons accords internationaux. Donc le paradoxe est que le take back control britannique conduit à une perte de souveraineté. Donc là, c'est un peu, c'était plus l'esprit du discours de Mario Draghi, et moi je l'appliquais plutôt au concept de souveraineté monétaire, mais d'une certaine façon, les deux idées sont parallèles. Maintenant, je voudrais passer à l'idée que le dollar, dans tous ses attributs, est aussi une monnaie de réserve qui est importante. Et qu'est-ce qu'une monnaie de réserve ? C'est une monnaie qui permet de donner de l'assurance, de fournir de l'assurance dans des périodes de crise. Donc, sur ce graphe, vous pouvez voir entre 1952 et 2016, des données sur la position extérieure nette des États-Unis en pourcentage de leur PIB. Et ces données, ce sont... Alors, les positions nettes extérieures en termes d'obligations, de bons du Trésor américain, qui est la courbe bleue, et vous voyez qu'elle est très négative. Les obligations sont aussi très négatives. Vous avez des prêts bancaires en vert qui sont autour de zéro et vous avez des actions et des investissements directs qui sont au contraire plutôt positifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Position extérieure nette. Cela veut dire que les États-Unis possèdent en net des actions à l'étranger. Ils sont détenteurs de titres, des actions japonaises, des actions européennes. Ils sont en net, ils en possèdent. Par contre, vous voyez que les bons du Trésor, c'est négatif, ça veut dire que ce serait le reste du monde qui possède des bons du Trésor américain. Donc c'est le reste du monde qui prête aux États-Unis, et les États-Unis leur vendent des bons du Trésor américain. Donc il y a une asymétrie très nette entre ce que les États-Unis possèdent, qui sont des actifs plutôt risqués, hein, des actions, des investissements directs, ce sont des entreprises qu'ils achètent, et ce que le reste du monde possède en matière d'actifs américains, c'est plutôt des bons du Trésor, plutôt des bons du gouvernement. Donc ça, c'est une très grande asymétrie. Et d'une certaine façon, ça n'est pas très, très surprenant, puisque si les États-Unis sont l'hégémon, si ils sont au centre du système monétaire international et qu'ils sont la monnaie de réserve, il faut bien que toutes les banques centrales du monde possèdent des bons du Trésor. Et pourquoi est-ce que les banques centrales du monde possèdent du trésor? C'est parce que ces actifs-là sont considérés comme étant liquides, sûrs, et justement, quand temps de crise, c'est ce que vous voulez avoir, des actifs liquides et sûrs qui ne vont pas se déprécier, dont la valeur va être soit augmentée, soit rester constante, et c'est ce que le reste du monde veut. Donc, ils recherchent de l'assurance. Le reste du monde recherche de l'assurance aux États-Unis. Et c'est ce que le bilan externe, en quelque sorte, des États-Unis reflète. Alors ça a plusieurs conséquences. Une conséquence, c'est un peu ce que j'appellerais une réinterprétation du privilège exorbitant de Gaulle, enfin de Giscard d'Estaing, que j'ai mentionné auparavant. Souvenez-vous que De Gaulle expliquait que le fait que le reste du monde voulait bien du dollar, ça permettait aux États-Unis, en gros, d'emprunter à bas coût, voire, il exagérait peut-être un peu, à zéro coût, et c'était un privilège extraordinaire. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Les bons du Trésor américain donnent des rendements relativement bas, et les États-Unis achètent des actions, des investissements directs qui donnent des rendements plus élevé, risqué, mais plus élevé. Donc, en moyenne, vous possédez des actifs risqués à rendement élevé et vous vous empruntez à des rendements très bas puisque tout le monde veut du dollar. Ça veut dire que vous faites un profit sur votre position extérieure nette en tant que pays. Et bon, ce profit, c'est ce que, avec un de mes collègues, nous avons réinterprété comme le privilège exorbitant des États-Unis, c'est-à-dire les rendements élevés des États-Unis sur leur position extérieure nette, que nous avons chiffré à environ 2% en termes réels, annuels, depuis 1950. Bien sûr, à privilège exorbitant, pourtant, vient aussi devoir exorbitant. Pourquoi ? Bien, réfléchissons à ce que nous venons de dire. Les États-Unis possèdent des actifs risqués et le reste du monde, à l'inverse, possède des actifs américains sûrs, non risqués. Ce sont les bons du trésor. Que se passe-t-il en temps de crise ? En temps de crise, toute la valeur des actifs risqués baisse. Et par contre, les bons du trésor américains gardent leur valeur, voire même augmentent. Parce que les gens veulent plus de bons du trésor américain lorsqu'il y a une grande crise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Du point de vue de la position nette des États-Unis, c'est la courbe rouge. Cela veut dire qu'en temps de crise, et ici mon indice de crise c'est cette courbe bleue, lorsque ça augmente, ça veut dire que les choses vont très mal. Et en particulier, vous voyez le pic bleu vers la droite du graphe, c'est la crise de Lehman Brothers en 2008. Vous voyez ce grand pic bleu, c'est vraiment les choses vont mal. Que se passe-t-il ? Eh bien, la valeur des bons du trésor augmente, la valeur des actifs risqués des États-Unis baisse. Ça veut dire que la position nette des États-Unis baisse très fort. Vous voyez la courbe rouge qui descend de façon assez violente, de façon concomitante avec la crise. C'est donc une détérioration de la position nette en avoir étranger des États-Unis en temps de crise, c'est ce que nous appelons le devoir exorbitant. Une détérioration nette de position en avoir étranger des États-Unis, c'est la même chose qu'un transfert de richesse positif des États-Unis vers le reste du monde. En quelque sorte, les États-Unis assurent le reste du monde en temps de crise. C'est ce qu'on attend d'une monnaie de réserve. Donc, à privilège exorbitant, devoir exorbitant en temps de crise. Quel a été le transfert durant la crise de Lehman Brothers ? À peu près 2700 milliards de dollars. C'est un transfert qui a été transitoire, mais qui vient du mécanisme que j'ai décrit auparavant. Donc, l'hégémon, qui est émetteur de la monnaie de réserve, est l'assureur de l'économie mondiale en temps de crise. Moi, je vais passer sur le rôle des swaps de la Fed, pour tirer la conclusion que si l'on veut un rôle de monnaie de réserve important, il y a une condition qu'une monnaie doit remplir, c'est que cette monnaie doit être très résistante en temps de crise. Ça veut dire qu'en temps de crise, la monnaie ne peut pas avoir à la fois une crise financière et une crise d'État, une crise souveraine, parce qu'à ce moment-là, la valeur des obligations d'État baisserait et ce ne serait pas un actif sûr, donc ça ne pourrait pas être un actif de réserve. Donc pour qu'une monnaie soit une monnaie de réserve, il faut avoir une monnaie qui est très résiliente en temps de crise. Et pour l'instant, il est bien possible que l'architecture de la zone euro ne permette pas vraiment d'atteindre un statut de monnaie de réserve pour un certain nombre de raisons, mais en particulier pour cette raison de résilience du système financier. Et c'est un constat qui est partagé par un certain nombre de gens. Donc ici, je cite Christine Lagarde. Mais c'est un constat qui, je crois, a été fait à plusieurs niveaux. Nous avons toujours en zone euro, malgré l'union bancaire, un problème qu'on a qualifié de doom loop ou de boucle infernale ou de cercle vicieux, comme vous voudrez, entre le système bancaire et la solvabilité des États de la zone euro. Je vais décrire ça dans une seconde, mais nous avons aussi un retard pour ce qui est de l'union des marchés des capitaux, qui sont quelque chose d'important pour créer de la liquidité aussi pour une monnaie internationale. Et nous avons toujours aussi un problème avec notre architecture budgétaire. Donc je vais juste mentionner la boucle infernale et puis après je conclurai. Donc qu'est-ce que c'est que cette boucle infernale de la zone euro? Eh bien c'est quelque chose qu'on a essayé de résoudre avec l'union bancaire, mais on n'est pas encore tout à fait... on n'est pas encore tout à fait là. En zone euro, les banques sont grandes par rapport à la taille des États. Et les banques sont très importantes pour le financement des économies. Donc, s'il y a un problème avec la solvabilité des États, immédiatement, comme les banques nationales détiennent beaucoup, pas dans tous les pays, mais dans certains pays, des bons de leur État, si l'État va mal, les banques vont aller mal. Si les banques vont mal, l'économie va mal. Si l'économie va mal, l'État va mal. De façon inverse, si les banques vont mal, comme elles sont grandes, s'il faut que l'État mette de l'argent dans les banques, eh bien l'État va aller mal. Et si l'État va mal et les banques nationales vont mal, l'économie va aussi aller mal. Donc on a un processus qui serait en force, qu'on a vu malheureusement à l'œuvre de façon assez nette dans la crise de la zone euro. Pensez à l'Irlande, pensez à l'Espagne, pensez à l'Italie. C'est un problème, évidemment, pour une monnaie de réserve, pour le problème de résilience dans les mauvais états du monde. Donc il y a un certain nombre de propositions auxquelles on pourrait penser. Je n'ai pas tellement le temps de m'étendre sur ça pour résoudre ce problème de boucle infernale. Il s'agirait avant tout de compléter ce qui a déjà été fait dans le cadre de l'union bancaire et de favoriser de façon plus poussée la mutualisation des risques en zone euro, qui est toujours... très peu élevé par rapport à ce que l'on voit au Canada, aux États-Unis ou en Allemagne. Le pourcentage des chocs amortis en zone euro par la politique budgétaire ou par les marchés privés ou par les marchés du crédit sont toujours plus bas que dans les zones comparables en Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Donc c'est un problème. Donc il est temps... probablement, là je cite Jacques Delors, octobre 2018, au moment où l'Europe et ses valeurs fondamentales sont attaquées par des populistes de tout acabit, au moment où l'un de nos plus grands États membres a pris la décision brutale de nous quitter, nous ne pouvons pas nous contenter de contempler nos succès passés ou de seulement défendre ce qu'on a déjà bâti. L'heure est venue d'être, de nouveau, audacieux. Et évidemment, la réforme de la zone euro est une de ces dimensions, mais il y en a bien d'autres. Sur lesquels on pourrait discuter pendant des heures, mais nous n'avons pas le temps. Donc je conclurai en disant que si il est vrai que l'euro a eu de nombreux succès depuis 1999, et ce sont une cause de célébration, nous sommes quand même dans la 20e année de l'euro cette année, donc ne l'oublions pas. Beaucoup d'économistes aux États-Unis avaient prédit son échec, et ils n'ont pas eu raison, heureusement. Mais l'architecture est toujours fragile. D'une certaine façon, cela se reflète dans le rôle international de l'euro, qui est toujours relativement, certainement beaucoup moins développé que celui du dollar. Les réformes de la zone euro ne doivent pas être oubliées dans tous les autres problèmes de premier ordre qui, en ce moment... doivent être réglés par l'Union européenne, en particulier les problèmes de changement climatique et les problèmes de frontières, etc. Mais je donnerai le mot de la fin à Jean Monnet pour dire que les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent et la communauté elle-même n'est qu'une organisation vers les formes du monde de demain. Je crois qu'il avait parfaitement anticipé le fait que, pour la majorité des biens communs que nous devons produire pour nos citoyens, par exemple le changement climatique, comment gérer les problèmes des migrations, l'échelle nationale n'est plus la bonne échelle. Et donc la question, c'est comment on fait marcher l'échelle européenne. Et je m'arrêterai ici.